marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
On y va.
Chers frères et amis.
Vajini bratia, mili priatelia.
Je suis content que vous soyez arrivés et que vous ayez répondu positivement à notre invitation.
Samuel Mirat, je me suis attaqué à la rencontre. A hlavně, že jste pozitivně reagovali na naše pozvání.
Comme chaque année, le discours est prononcé en français, mais aussi en slovaque. Car les hommes de la communauté ici réunis maîtrisent parfaitement les deux langues. Très loin de leur pays d'origine, ils sont venus étudier à l'Est, au temps de l'Union soviétique, et ils ont obtenu des diplômes. Mais à la différence des autres boursiers, ils ont décidé de rester dans ce pays appelé la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991. Camarades africains, c'est un reportage proposé par Daphné Castaldi et réalisé par Cécile Pompeani pour La Marche du Monde.
Et je m'appelle Mamadou Bassadé, de nationalité béninoise. Nous sommes à Bratislava, à la fête de la communauté béninoise de la Slovaquie. Il y a aussi nos épouses, pour la majorité qui sont slovaques, d'autres aussi qui sont africaines. En ce qui me concerne, je suis arrivé la toute première fois en Tchécoslovaquie en 1982. J'avais 18 ans en 82. C'était pour faire des études dans le cadre de l'UNESCO. Je suis ingénieur et j'ai aussi un doctorat en génie mécanique.
Ah, allez, non, non, merci. Merci beaucoup pour le déplacement. Hein. Ah, vraiment, ça nous a fait beaucoup. Ouais, c'est la surprise. Hein. Ouais, ça, c'est une très bonne surprise. Hein.
À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était la filière de génie mécanique. Et la Tchécoslovaquie, ayant déjà, lors de la Première Guerre mondiale, voire aussi la Seconde mondiale, une tradition en génie mécanique. Donc, c'était mon avenir qui m'intéressait et non le régime qui existait dans le pays. C'était le seul pays aussi de l'Europe de l'Est qui avait sa propre marque de voiture, la marque Skoda, qui aujourd'hui appartient à un grand groupe allemand. Donc il y avait déjà de la tradition, et voilà, le génie mécanique, c'est ce que je voulais, c'est pour mon rêve d'enfant. Bon, à l'époque, il faut dire que le Bénin aussi était, on peut dire, sur la voie du socialisme. Donc nos relations bilatérales avec les anciens pays de l'Est, communistes, était au bon fixe. Ce qui a fait que voilà, beaucoup d'Africains arrivaient ici pour faire des études, surtout des filières qui étaient techniques. Et il y en avait très peu à l'époque en direction de la France. Nos aînés, c'était plus la littérature, l'histoire. On a des avocats, des historiens, des géographes. Mais techniquement parlant, les pays de l'Est ont formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres techniques pour l'Afrique.
Mais le but, c'était que vous retourniez être cadre technique dans votre pays, non?
Oui, ça s'est passé. Je parle de mon premier séjour en 82, en 1987, et j'étais revenu pour faire un doctorat. Après le doctorat, j'ai croisé mon épouse, qui est d'origine slovaque, et depuis, voilà, pour le moment, on a décidé d'être ici, et pour des raisons familiales, professionnelles, etc., etc.
Dans les années 80, en Tchécoslovaquie, c'était comment?
C'était très, très dur. Mais nous, on avait eu cette chance, concrètement les Béninois, de pouvoir voyager. Il y avait des Africains qui ne pouvaient pas sortir de l'Est Tchécoslovaquie. Mais nous, Béninois, on avait la chance de voyager. Donc, une fois les vacances arrivées, on allait passer 2 mois, 3 mois en France, en Allemagne, ce qui avait de la famille. Ce qui fait que, voilà, on arrivait un peu à amoindrir nos soucis. Mais c'était très, 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 très difficile. L'étranger était presque inconnu de la majorité. Et une fois les vacances arrivées, nos collègues slovaques rentraient en famille. Donc, les cités universitaires étaient quasiment vide.
Je m'appelle Martin Palou
et je suis professeur des universités à l'Université slovaque des technologies de Bratislava. Quand j'étais arrivé à Prague. Après, on a continué à Bratislava en Slovaquie. On était 3 étudiants tchadiens, on n'était pas beaucoup. Ça ne veut rien dire, 3 étudiants. J'étais arrivé en 1986. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Et après un certain temps, il y avait eu la révolution des velours et la Tchécoslovaquie s'est séparée en 2 États indépendants, la République tchèque et la République slovaque. Il y avait eu une coopération technique entre la Tchécoslovaquie et le Tchad par le biais du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu une bourse pour venir étudier en Tchécoslovaquie pour me perfectionner en industrie de cimenterie. Et la vision était la formation de cadres techniques, purement techniques dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la science, dans le domaine de la recherche, etc. etc. Mais ce n'était pas à des objectifs idéologiques ou bien étatiques pour revenir gouverner ou bien pour diriger l'État, non. J'ai fait la chimie industrielle. J'ai commencé à travailler à l'université comme maître assistant, après comme maître de conférences, et actuellement je suis un professeur des universités. J'étais un anticommuniste primaire, et pendant tout mon séjour que j'ai eu ici, je n'ai fait que discuter avec soit avec mes collègues venus d'Afrique ou bien avec des gens d'ici, comment le communisme n'est pas une bonne idéologie. Ça, je suis pas communiste et je ne le serai jamais. Il y avait une certaine curiosité de découvrir comment ça va ressembler la Tchécoslovaquie, comment les gens vont se comporter envers nous, comment seront les voitures, quel sera l'état de l'industrie, l'état de l'économie. Bon, j'imaginais que bon, ce sera un pays où on interdit la religion, c'est-à-dire c'est l'athéisme, on ne peut pas pratiquer sa religion, par exemple, on ne peut pas parler librement, on ne peut pas écrire librement, on ne peut pas voyager librement. C'est ces idées-là que j'avais en tête.
Lorsque vous arrivez le 12 septembre 86 à Prague, en Tchécoslovaquie,
oui.
Quelle est votre première impression ?
Non, ma première impression fut une demi-déception. Parce que, bon, quand je voyais les voitures, ce n'était pas les voitures de luxe et de l'Ouest. Alors, quand je voyais l'état des bâtiments, ce n'était pas comme je m'attendais à cela. Mais néanmoins, ce n'était pas comparable à l'Afrique. Mes premières impressions furent que, d'accord, que le niveau de la technologie n'est pas si haute, mais la nature était belle. Il y avait les montagnes, il y avait la neige, on fait le ski. Alors, c'est une belle vie aussi.
L'arrivée des premiers étudiants africains à l'Est remonte aux indépendances. Les nouveaux États manquent cruellement de cadres et doivent constituer leurs élites. Par ailleurs, les relations entre le bloc soviétique et l'Afrique existent depuis la révolution russe et certains mouvements nationalistes se réclament du marxisme-léninisme. Mais les étudiants envoyés dans les différentes républiques soviétiques se sont finalement montrés peu sensibles à l'idéologie communiste. Ils sont d'abord venus se former pour obtenir un diplôme universitaire après un an d'apprentissage de la langue.
Bon, après, on est acquis à l'université. Bien sûr, il y a un certain respect envers les professeurs. On ne peut pas dire « monsieur le professeur », on disait souvent « le camarade professeur ». Dans la langue, c'est « soudrou professeur ». Mais on disait, on pouvait aussi dire « pan professeur », c'est-à-dire « monsieur le professeur ». Bon, que ce soit soviétique, que ce soit cubaine, que ce soit de n'importe quel pays que ce soit, et on s'appelait toujours camarade dans l'idéologie socialiste, dans l'idéologie communiste. Que ce soit ce communisme en Union soviétique, ou bien en France, ou bien en Belgique, ou bien en Norvège. Quand on est dans les partis politiques, les gens s'appellent camarades.
Moi, j'ai amené le gari et du sodabi. Sodabi, c'est pratiquement un vin de palme. Distiller.
Ça vous fait quoi de voir ces anciens étudiants qui sont arrivés comme vous à l'époque de la Tchécoslovaquie sous le communisme ?
Ça nous rappelle une longue histoire, ça nous fait de longs souvenirs et on est heureux de se revoir au moins une fois par an.
Figure de la communauté béninoise de Slovaquie, Ivo Gour ravive ses longs souvenirs. C'est au Ghana qu'il apprend la nouvelle. Il a obtenu une bourse pour aller étudier 7 ans en Tchécoslovaquie. Il rentre alors à Cotonou pour prendre l'avion, puis s'envole pour la Tchécoslovaquie en septembre 1987. Il a tout juste 20 ans. Et comme les autres boursiers, il consacre sa première année à l'apprentissage du slovaque. 30 ans après, il revient sur les lieux qui ont marqué son expérience soviétique avec notre envoyé spécial, Daphné Gastaldi.
Ivo Gour, on est maintenant à l'été 88. De Prague, vous êtes envoyé dans une ville pour étudier. Où est-ce que vous arrivez ?
Alors après le centre de langue, je suis arrivé dans la ville de Košice, à la gare de Košice. C'était la cinquième ville de la Tchécoslovaquie en ce moment.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est la deuxième ville de la Slovaquie. Et ça a complètement changé parce que c'était une petite gare. Aujourd'hui, on est face à une gare vraiment moderne et avec du commerce et tout. En ce moment-là, on pouvait seulement venir prendre le train et partir. Il n'y avait aucun commerce.
On va aller sur le quai où vous êtes arrivé.
Je me rappelle, par exemple, comment mon premier voyage avec le train, parce que je n'avais pas la notion de plateforme. Et bon, de toutes les manières, j'étais un bon béninois. Je n'étais pas habitué parce que quelqu'un qui est venu du Bénin, chez nous, on avait un train qui quitte Cotonou pour Parakou, un sens, et le lendemain, ça faisait Parakou-Cotonou. Donc, je ne pouvais pas imaginer cette affaire de plateforme. Mais je suis rentré dans le premier train, on m'a dit, mais va à 14h, tu prends. Mais je suis rentré dans le premier train. Je me suis retrouvé quelques minutes seulement en Autriche.
Quand vous prenez votre sac et que vous montez dans le train à Bratislava pour rejoindre Kosice, comment les gens vous regardent dans le train en 88 ?
En dehors de notre professeur qui a l'habitude de rester avec nous, il y avait un Béninois, un Congolais, un Mozambicain et un Soudanais. Et là, on nous regardait d'une manière bizarre parce qu'on était vraiment intéressants. C'est comme si vous rentrez dans un parc zoologique pour aller voir les animaux. Donc, ils n'avaient jamais vu un Africain. Subitement, ils ont quatre Africains en face. Et cette nouvelle-là a passé dans tout le train. Et là, on passait sciemment pour voir les Africains qui étaient là. Et pour surtout voir comment on communiquait. Et bizarrement, on parlait entre nous la langue slovaque. Parce que c'était la langue qui était une langue commune pour nous. Ben, lorsqu'on était venu, on était les premiers Africains. Après, on a eu les Éthiopiens, les Angolais, les Burundais. Mais l'effectif d'Africains n'a jamais dépassé une trentaine. Jamais. On se trouve au centre-ville. Et ça, cette place s'appelle la place de la liberté. Et au temps des communistes, il y avait le seul magasin qui est toujours resté du nom d'Argov. C'était le seul magasin de toute la ville. Et en face, il y avait des magasins là où les étrangers pouvaient acheter, mais rien que des étrangers. Mais aujourd'hui, on voit des banques, on voit un peu de tout. La boutique pour les étrangers, cette boutique a été transformée en centre commercial. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut aller acheter. La ville était sale, il n'avait pas de vie. On ne voyait pas les gens étaient enfermés dans leur maison. C'est pas comme aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes. On ne voyait personne. De toutes les manières, l'emploi était obligatoire. Travailler, c'était une obligation. Celui qui ne travaille pas allait en prison. Donc, peut-être, ils travaillaient tous.
On va actuellement à la cité universitaire, le premier chemin de la gare
à la cité universitaire.
On fait aujourd'hui en voiture, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de voitures.
À l'époque, il n'y avait pas de voiture privée comme ça, donc on devait faire avec le bus ou le trolley.
Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas parlera toujours plus tard. Levons-nous pour bâtir un Bénin tout nouveau.
Ivogou, qu'est-ce que vous écoutez dans votre voiture ?
Quand je suis dans ma voiture, je mets la musique africaine et en général la musique béninoise. Et ce morceau parle du travail, les vertus du travail, que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, qu'il faut travailler, que le travail l'hiver.
Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas.
Alors, on arrive devant le fronton de l'université de médecine. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'entrée ?
Universitna Niemosnica El Pastora. C'est l'hôpital universitaire Louis Pasteur. Bon, on rentre à la faculté. J'avais fait la médecine légiste.
Le premier amphithéâtre où vous êtes entré, c'était où?
Notre premier amphithéâtre, c'était juste à côté de la bibliothèque. Ça, c'est le département de physiologie. Au deuxième étage, il y a le département d'informatique. Au Bénin, je n'avais pas vu d'ordinateur. L'informatique, c'était une matière obligatoire.
Là, on voit des étudiants qui passent habillés avec des blouses en blanche, comme à l'époque.
Hi, how are you guys?
Où est le café? Où est ton café?
Quand vous rentrez dans l'amphi, c'est fait pour 200 étudiants. Et vous rentrez, vous vous retrouvez seul africain ou bien deux. Ça fait plaisir de revivre ça, quoi.
Yves Ogo, vous arrivez pour étudier en juin 88, mais en fait, la rentrée à l'université n'est qu'en septembre.
En septembre, bon, on vient. On ne savait pas ce qui allait se passer. On est venu, il avait l'amphi, on rentre dedans. On pensait qu'il y aurait d'Africains encore là-bas, je me rappelle. On se retrouve à deux, dans un monde de 400-500 étudiants blancs. Quand je suis rentré, sens unique, tout le monde vers moi. Le doyen de la faculté dit, bon, nous sommes heureux d'accueillir parmi nous les nouveaux boursiers. Bon, il nous a présenté. Le lendemain, on avait cours d'anatomie. On va, personne autour. Bon, ça nous faisait rire, c'est comme si on avait la peste. Je dis bien, ce n'était pas du racisme, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'était une méconnaissance. Les trois ou quatre premiers mois, c'était difficile. En général, c'était des étudiants qui n'avaient jamais vu un Africain. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils auraient des Africains amis de classe. On ne s'attendait pas à ce genre de réaction. Mais l'Africain, on vient vous toucher ta peau pour voir si tu es sale ou tu n'es pas sale. Les gens ont reculé, bon, pour laisser plus de place à l'Africain.
Ils avaient peur de quoi, en fait?
Je pense qu'ils avaient peur de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient rien à l'Afrique parce que la Tchécoslovaquie n'a pas de colonie. Et les gens étaient coupés de toute information possible. Je pense qu'ils n'étaient même pas capables d'imaginer qu'on a quand même des écoles en Afrique. Que les Africains pouvaient aller à l'école, pouvaient aller à l'université, ils n'avaient aucune idée de ça. Donc, il fallait expliquer ce qu'est le Bénin. Donc, non seulement on était étudiants, mais on était les ambassadeurs de notre pays. Avec toutes ces familles, on a de bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Donc,
il est 18h, on est dans les couloirs de l'université qui ne devrait pas tarder à fermer. Et on voit la cité universitaire où vous avez vécu pendant plusieurs années. Comment ça se passait, la vie dans cette cité universitaire avec les étudiants tchécoslovaques et des étudiants de tous les pays non alignés à cette époque pendant la guerre froide?
C'était la meilleure partie de ma vie. La cité universitaire, c'est un monde dans un monde. C'était une vie absolument heureuse. Une vie, comme les Congolais disaient, où on créait l'ambiance. Bon, on parle des camarades filles, on parle des camarades vietnamiens, des camarades laotiens, des camarades syriens, des camarades palestiniens, des camarades éthiopiens, des camarades congolais. Ceux-là, ils sont restés camarades jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont communistes. Jusqu'à aujourd'hui, quand les anciens se voient, jusqu'à aujourd'hui, on se tutoie camarades. Parce que ça, c'est quand même une habitude qui est restée. Une habitude soviétique, mais camarades, bon, on est quand même des camarades.
Yves Ogou, un Africain au pays des Soviets, c'est à suivre en exclusivité sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde en reportage en Slovaquie, notre envoyée spéciale Daphné Gastaldi nous propose de partager le destin des camarades africains.
Je suis arrivé dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Bon, j'ai une histoire drôle. Je suis venu dans la République socialiste tchécoslovaque. Après, je suis resté en Tchécoslovaquie Après, je suis resté dans la Tcheco avec Slovaquie. Après, dans la République fédérative de Tchécoslovaquie. Et aujourd'hui, je suis en Slovaquie, mais je suis toujours dans la même ville.
Arrivé en pleine guerre froide pour étudier à l'Est, ils devaient obligatoirement rentrer dans leur pays d'origine une fois diplômés afin de participer à la construction de leur jeune nation indépendante. Et si la majorité d'entre eux l'ont fait, ils sont devenus hauts fonctionnaires, ministres ou encore présidents, comme Alpha Omar Konaré au Mali. Quelques-uns sont restés, comme le prouve l'histoire du Béninois Yves Ogou, étudiant en médecine à l'université de Košice dès le mois de septembre 1988.
Ça, c'est Renata, mon amie de classe.
Je suis Renata Lenartova, maire adjointe de Košice. J'ai étudié à l'université de médecine Joseph Safarika de Košice.
Quand est-ce que vous rencontrez Yves Ogou, ce Béninois qui est venu se former à l'Est?
Stretla som sa s Ivom na prvom cvičení, ktoré sme mali na lekárskej fakulte v prvom ročníku. Bola to konkrétne hodina anatómie.
J'ai rencontré Yves Ogou pour la première fois lorsqu'on avait un cours d'anatomie.
La première fois que vous ramenez Yves comme camarade d'école dans votre famille, comment votre famille réagit?
Musím povedať, Yves, ja si pamätám na to, že veľmi dobre, myslím si, že niečo uvarila a i u nás jedol, asi kurča to bolo.
Lorsqu'Yves est venu dans ma famille, ça s'est très bien passé parce qu'il a cuisiné la pâte, le foufou.
Est-ce que vous avez été étonné de voir ces étudiants africains qui réussissaient plutôt bien leur diplôme?
Veľmi sme to obdivovali, pretože oni sa v priebehu jedného roka dokázali naučiť slovenský jazyk, o ktorom si myslím, že je veľmi ťažký.
A ce qui nous a surpris, c'est qu'ils ont réussi à faire des études de médecine difficiles en langue slovaque, alors qu'ils ont seulement eu 9 mois pour apprendre notre langue.
Sú veľmi talentovaní a nadaní, a že dokázali zvládnuť tak náročné štúdium v našom materskom jazyku.
On a compris que c'était des étudiants vraiment intelligents.
Aujourd'hui en 2015, quand Yves Ogou se promène dans les rues de Košice, les gens le regardent, l'observent, ils s'adressent à lui en anglais. Est-ce que les Slovaques sont au courant de l'histoire de ces étudiants africains arrivés à l'époque communiste?
Starší ľudia o tom určite vedia, ale mladšia generácia si to nepamätá, lebo nie, si myslia, že každý, ktorý...
L'ancienne génération est au courant, mais pas la nouvelle. Les jeunes pensent que ce sont des étrangers qui parlent anglais.
C'est en effet une histoire méconnue en Europe, mais aussi en Russie ou encore en Afrique. Si les soviétiques mènent alors une politique expansionniste à l'adresse des pays du tiers-monde, les anciennes colonies cherchent pour leur part à se démarquer de la France. C'est la première grande circulation estudiantine. Des dizaines de milliers de jeunes Africains ont étudié à l'Est entre 1960 et 1991 jusqu'à l'éclatement du bloc communiste.
Tu m'as dit Kofolo? Dame Fikofolo. Velko aussi, dame. On est au café étudiant, College Coffee.
Qu'est-ce que vous commandez, Yves?
Si on est de commander de Kofola, le Coca-Cola tchécoslovaque. Je veux contribuer à l'économie nationale. Je ne prends pas de Coca-Cola, je prends Kofola.
Ça, c'est un réflexe de l'époque soviétique?
Il faut nécessairement que quelque chose me reste quand même du passé. Ďakujem. Les études, c'était gratuit. Nous, on ne payait pas. On avait aussi la bourse, mais elle n'était pas suffisante parce que certains voulaient aider les parents quand même en Afrique. Donc, on faisait pratiquement le petit commerce. On achète quelque chose, tu viens vendre. Surtout, l'électronique, c'était ça qui marchait beaucoup. Par exemple, on pouvait aller en République démocratique d'Allemagne. En pleine guerre froide, le Béninois pouvait aller en Allemagne. Les Tchèques et les Slovaques ne pouvaient même pas aller en Hongrie. Pour aller en Hongrie, pour aller en Pologne, pour aller même dans les pays socialistes, communistes, ils avaient tellement besoin de papiers qu'ils ne pouvaient pas. Parce que les communistes avaient peur que s'ils se retrouvent de l'autre côté, ils peuvent se retrouver facilement, ils peuvent quitter la Hongrie pour se retrouver en Autriche pour demander l'asile politique. Donc il était dangereux entre eux, ils ne laissaient pas passer. Alors que moi, en tant qu'étranger, je pouvais prendre le train et aller n'importe où. Et quand on se retrouve à l'ouest pour venir ici, on ramène la nourriture de l'Afrique parce qu'on n'avait pas beaucoup d'Africains ici. Il n'y a pas de marché africain, il n'y a rien comme ça ici. Donc quand tu te retrouves de l'autre côté pour nous, c'était l'ouest. Pour revenir ici, tu amènes beaucoup de choses à manger.
le gari, le foufou, ce que les Africains aiment. Et l'huile rouge, l'huile d'arachide, c'était des choses qu'on pouvait amener parce que c'est des choses qui n'existaient pas du tout ici. Tu achètes quelque chose, tu viens, tu essaies de cacher ou tu essaies de corrompre le policier ou le douanier qui est là, tu passes facilement. Mais on achetait par exemple les vêtements, on achetait la radio, la télévision, des choses comme ça, et tu revends parce que tu as toujours des gens. Il avait le marché noir qui était vraiment développé. On ramenait les blue jeans. Moi, j'ai ramené sous le manteau et des livres qui étaient pratiquement interdits. Et c'était des livres qui critiquaient le régime d'ici. Bon, on avait des livres de Havel, par exemple, qui étaient publiés à l'Ouest, qu'on ne pouvait pas amener ici. Mais c'était les étudiants étrangers qui amenaient ça.
Vous n'aviez pas peur de finir en prison si vous étiez pris la main dans le sac?
Il fallait faire le risque. On avait quand même un esprit démocratique. On pensait quand même au changement. On voyait quand même qu'il faut changer quelque chose. Je me rappelle du 17 novembre 1989. Il y avait un grand meeting à Prague. J'avais suivi à la radio sur RFI. J'ai changé pour voir la confirmation sur BBC et Voice America qu'il y a une manifestation. Mais avant ça, le mur était tombé à Berlin. À côté de nous, les Polonais étaient en mouvement, les Hongrois également. Donc on était quand même d'une manière isolée, mais de toutes les manières, ça ne va pas tarder. Donc ça n'a pas effectivement tardé. Le 17 novembre, normalement, c'était une fête communiste pour les étudiants. Les étudiants se rencontraient, manifestaient, c'était une fête. Mais cette fête-là a été transformée en manifestation contre les communistes. Ça, le mur était complètement tombé. C'était tombé, il y avait des manifestations pacifiques, pacifiques, pacifiques.
Pourquoi vous participez à cette révolution de velours?
Le révolutionnaire n'a pas de pays. Le pays de révolutionnaire, c'est le monde. C'est le monde progressiste. On a trouvé qu'il fallait partir là-bas. On était là seulement dans la foule. Quand les gens chantaient, on chantait. On était là. On chantait l'hymne national tchécoslovaque. Kde dom boy, kde dom moy. Où est ma maison, où est ma maison. C'était, ça commence par un refrain tchèque et ça finit avec un refrain slovaque. Donc, c'était passionnant pour un Béninois.
La foule des grands jours à Prague, sur la place Letna, où autrefois s'élevait la statue de Staline. Près de 500 000 personnes se sont rassemblées cet après-midi pour assister à un immense meeting. À la tribune officielle, Alexander Dubček, le héros du fameux printemps de Prague, et Václav Havel, le chef de file de l'opposition. Les images de cette manifestation ont été retransmises en direct à la télévision. Dans la foule, Laurence Simon.
Enfoncé dans son manteau gris, chapeau mou assorti, entouré d'acteurs et de chanteuses, Dubček laisse son regard se perdre dans la foule de 800 000 manifestants. Il a dans les yeux cette hauteur lointaine et pourtant humble d'un homme simple qui rentre d'exil. Et bien sûr, en face de lui, c'est tout le peuple tchèque, paysans, fonctionnaires, hommes, femmes, jeunes, vieux, qui se retrouvent pour partager la même émotion en écoutant des chansons populaires. Mais les leaders de l'opposition ont fait de la manifestation un véritable spectacle. À la tribune, on se présente et on salue, comme au théâtre. On récite des poèmes et on chante des chansons entre des discours. À la fin, Havel et Dubček chantent ensemble l'hymne national. À Prague, Laurent Simon, France Inter.
Les leaders de l'opposition comme Havel ont été libérés de la prison. Ils ont commencé par diriger la masse. Il y avait les artistes qui allaient dans les facultés, qui faisaient les débats avec les étudiants. On est rentré dans un régime démocratique.
Comment vous réagissez à l'époque ?
À l'époque, on était fiers d'avoir participé à ça, de l'avoir vu. Parallèlement, l'éclatement du bloc soviétique a eu un impact immédiat sur le Bénin. Chez nous, au Bénin, on parlait de l'organisation d'une conférence nationale. C'était passionnant, pratiquement, d'être sur deux mondes. Et les deux mondes voulaient un changement.
Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation.
Le 28 février 1990, le président Mathieu Kérékou lance la première conférence nationale du continent africain. Après une année de manifestations où étudiants et fonctionnaires ont réclamé leurs bourses et leurs salaires. Le régime marxiste-léniniste du général président est à bout de souffle. Le monde vit les dernières heures de la guerre froide. Et pour Yves Ogou, comme tous les jeunes Africains venus étudier à l'Est, tout change.
On avait deux soucis. Quel serait l'impact de ce changement sur nos bourses? Parce qu'il y avait quand même des accords qui ont été signés entre nos pays d'origine et soit le Parti communiste tchécoslovaque ou l'État tchécoslovaque. Qu'est-ce qui allait se passer avec nous? Ça, on se faisait énormément de soucis.
En 89, quand vous avez appris que le mur de Berlin était tombé, vous aviez peur de devoir rentrer dans votre pays?
Oui, on avait peur de devoir rentrer dans nos pays d'origine. Ça a été une peur. Ce qui avait l'accord entre État et État, c'était une continuité. Je pense que certains étudiants étaient rentrés parce qu'il avait des accords entre parti et parti. Donc, comme le Parti communiste n'était plus le parti qui dirige l'État, comme le Parti communiste n'était plus le parti unique, je pense que certains étudiants étaient obligés de rentrer dans leur pays d'origine. Je n'ai jamais voulu passer à l'Ouest parce que j'étais convaincu que le Bénin avait besoin d'un homme de type nouveau et que cet homme de type nouveau ne pouvait pas être formé à l'Ouest parce que il fallait libérer son pays du joug colonial et que je voulais faire mes études dans un pays qui n'a pas un passé colonial. Donc je n'ai jamais pensé me retrouver, comme on dit en ce moment-là, de l'autre côté. Ça n'a jamais été mon souci.
Quelle est la première musique occidentale que vous avez entendue?
Moi, j'étais choqué d'avoir le reggae de Bob Marley. Je dis, mais ici, ça c'est bon, ça c'est un changement.
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation.
La Marche du Monde, en reportage en Slovaquie. Nous revivons l'éclatement du bloc soviétique avec le Béninois Yves Ogou. Étudiant en médecine à l'université de Košice à la fin des années 80, il fait partie de ces 50 000 étudiants africains répertoriés à l'Est par l'UNESCO au moment de la chute du mur de Berlin. Avec ses anciens camarades d'université, il revit son expérience d'avant et d'après 1989.
En 91, il avait le nationalisme qui a commencé par naître en Tchécoslovaquie. Il avait des attitudes racistes qu'on n'avait pas connues, qu'on commence à connaître.
Vous aviez quel âge à cette époque quand vous avez vu les premiers néo-nazis ici, dans le pays qu'on appelait encore la Tchécoslovaquie?
J'avais 22 ans. Pour la première fois, j'ai vu les néo-nazis qui ont voulu même nous attaquer dans un tram. C'était des skinheads. On était à Bratislava dans le tram numéro 6. Subitement, on voit en face de nous des skins habillés en jeans avec des chaussures bizarres. On savait que la situation, elle est difficile. Le Soudanais dit, mais écoutez, en langue slovaque, « Ah, mais on a une bonne chair humaine à manger aujourd'hui. » Et ils ont entendu, ils ont commencé par crier « Cannibale, cannibale, cannibale !» Au premier arrêt, ils sont sortis du tram. On s'est regardé comme on dit « Dieu merci !» Ce qui a touché un peu, tous ceux qui étaient autour de nous étaient assis et n'ont rien dit.
Et sous le communisme, vous n'aviez pas eu ce genre de problème?
Sous le communisme, c'était pratiquement impossible parce que la police avait tout sous le contrôle. C'était une bombe qui était là. Et bon, la libéralisation, tout ça, ça a fait que ces phénomènes-là sont venus dans les pays de l'Europe centrale. Ce n'était pas seulement en Tchécoslovaquie.
Yeah.
votre profiterne.
Oui.
Camara, le Guinéen. Ah, d'accord. Mais écoute, Camara, il est encore en Slovaquie. Oui, oh, je sais, il est toujours ici. Dis donc. Ah ah. Oui. Bon, c'est bon, c'est, ça c'est super.
D'accord.
Oui. Ok, ok, merci beaucoup. Au revoir.
Je suis Salim Camara, je suis originaire de la Guinée, Conakry. J'ai 63 ans. Je vis ici en Bratislava. Je suis arrivé en Tchécoslovaquie en 1982. Ouais, c'était la première fois que je prenais l'avion pour quitter mon pays et sortir. J'ai été bénéficiaire d'une bourse d'études pour venir faire mes études de doctorat en Tchécoslovaquie. Nous avions beaucoup de professeurs russes en Guinée, dans nos universités. Beaucoup de nos cadres ont été formés dans les pays de l'Est. Ça, c'est mon diplôme de doctorat. Le nom de la faculté, Chevet Outé.
En quelle année vous l'avez obtenu?
Le 12 octobre 88. Le but, c'était de retourner et gérer ou bien travailler à l'université, enseigner à l'université.
À Conakry.
À Conakry, c'était mon but. C'était le but du gouvernement aussi. Je vous ai dit que je suis rentré en 89 en Guinée. Et j'avais en ce moment travaillé et amassé un peu d'argent et acheté des objets qui m'auraient permis de commencer quelque chose là-bas. Je voulais spécialement ouvrir, disons, un petit restaurant. Bon, mais à la poste, quand j'ai envoyé, ils m'ont tout pris. Simplement, j'ai passé 7 mois à Conakry en train de rechercher du boulot, mais je n'ai pas trouvé de boulot. Il a fallu l'aide d'une copine allemande à laquelle j'ai expliqué ma situation, qui m'a envoyé, disons, un billet d'avion, me disant de revenir.
Quand vous revenez de Guinée,
oui,
en Tchécoslovaquie, quelle est la situation?
Disons, le pays était encore entier quand je partais à Bratislava en janvier 90. Mon intérêt, c'était de trouver du boulot. Et mon intérêt, c'était d'être à proximité de ma fille. J'avais eu à ce moment une fille avec une femme slovaque. Et la femme slovaque m'avait rejeté, m'avait interdit le contact avec mon enfant. Donc, c'est à cause de tout cela, du travail, surtout de ma fille, j'ai cherché à partir à Bratislava.
Vous êtes ingénieur, pourquoi vous n'êtes pas embauché dans les usines?
Parce que, disons, je suis ingénieur électronicien et dans les années 90, on parlait déjà de l'ouverture des frontières. Donc, les usines tchécoslovaques étaient menacées, pas à cause du racisme. Le racisme, ça existe ici, c'est très puissant, mais la période dont je vous parle était une période qui menaçait tout le monde.
Si vous devez faire le bilan de vos années d'études et de votre diplôme en Tchécoslovaquie, qu'est-ce que vous diriez?
Je regrette d'être resté ici si longtemps. Parce que ça a été une perte de temps pour moi.
Comment vous vivez aujourd'hui?
J'ai appris profondément la langue anglaise. Et puisque les gens sont intéressés à parler l'anglais, j'ai 1-2 clients par semaine, 3 clients qui me payent 10 euros à l'heure et j'enseigne l'anglais. Disons, mes clients, ça me permet tout juste de joindre les bouts. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be?
Volám sa Adriana Ogu.
Je suis Adriana Ogu.
A som manželka Iva Nikolasa Ogu.
La femme de Yves Nicolas Ogu.
Som učiteľka.
J'ai 2 enfants.
Et
je suis enseignante
Magyarsku.
Et hongroise.
Adriana Ogu, comment vous avez rencontré Yves?
Bola to náhoda na diskotéke.
On s'est rencontrés par hasard dans une discothèque.
Bolo to v 97.
C'était
roku.
En 1997 à Košice.
Živelo, áno.
C'était la première fois que je voyais un Africain en chair et en os. Je n'en avais vu que dans des films jusqu'à présent.
J'ai retrouvé les photos de mariage. On a célébré le mariage ici à Somotor.
Alors sur des photos de votre mariage, on voit toute la famille hongroise d'Adriana. Oui. Et puis on voit des amis à vous qui sont originaires d'où?
À mon mariage, il avait des Africains, les Béninois. Je pense qu'il avait des Slovaques qui étaient mes amis. Il avait, je pense, Kampang. Il doit avoir le Laotien ou le Cambodgien à mon mariage. C'était un mariage vraiment, vraiment mixte.
Qu'est-ce que vous saviez de l'histoire de ces étudiants africains arrivés en Tchécoslovaquie dans les années 80?
Taká predstava bola zaužívaná, že väčšinou tí študenti, čo pochádzajú z iných krajín.
On nous disait que les étudiants africains qui étaient là étaient soit issus d'une famille très riche, soit qu'ils étaient de brillants étudiants.
Comment a réagi votre famille lorsque vous lui avez présenté Yves, un Béninois en Slovaquie?
Bolo to ťažké preňho prijať ho, pretože tam bol práve ten problém.
C'était très difficile pour mon père d'accepter parce qu'il n'avait jamais rencontré d'Africain.
Mal obraz z filmu.
Ou alors que dans les films, des acteurs noirs avec des rôles de méchants.
Automaticky spájalo Černoch sa rovná niečo zlé. Mohol si prísť až potom, ako boli...
Mes parents ne voulaient pas le rencontrer au début.
Lebo zo začiatku nebola ochota ťa spoznať.
Il a fallu des mois.
Prvýkrát prišiel do Somotora...
Il est venu en 1998 à
Somotor.
Et ma grand-mère a touché sa peau quand il lui a tendu la main pour voir si la couleur partait.
Quand vous êtes arrivé à Košice, on vous avait dit que c'était la ville des gitans. Aujourd'hui, vous travaillez avec ces gitans.
Oui, bah, c'est pourquoi je dis que ce choix-là, je ne vais jamais regretter. Je n'ai jamais su qu'on peut arriver à voir cette pauvreté de ce genre-là en Europe. Donc j'ai pensé que l'Europe, bon, c'est ce qu'on nous montrait à la télé, c'est Paris, c'est tout ça là. Mais lorsque j'ai vu cette réalité, ça a été un choc pour moi. Et c'était pire que mon village d'origine. Moi, je suis d'un petit village Kéré à Dassa. Mais Kéré est 10 fois plus propre que les ghettos roms d'ici. Ça m'a choqué, j'étais face à une situation qui était pire que la situation en Afrique. Mais je me retrouve dans une situation où l'école est à 200 mètres et les enfants ne sont pas capables d'aller, ou bien on n'a pas créé les conditions pour que les enfants aiment aller à l'école. Mais chez moi au Bénin, tous les enfants aiment aller à l'école.
Donc vous avez abandonné votre carrière de médecin pour devenir travailleur social avec les Roms?
Je suis actuellement travailleur social avec les Roms. Je fais assez d'expertise pour le ministère, pour des organisations internationales. Et à ce niveau-là, je ne me plains pas.
Quand les Roms vous voient arriver, vous êtes plutôt grand, avec un style vestimentaire particulier, béninois. Comment ils réagissent?
Mais ils réagissent bien, bon. Il m'accepte plus facilement que les autres. J'étais surpris de savoir qu'il y a quand même une population qui est apparemment noire comme nous. Donc, il m'accepte plus facilement que les autres. C'est en Slovaquie qu'on voit des zones de ségrégation absolue. Et ces zones-là, il faut finir avec. Je veux voir Martin Luther King, Rome, ici un jour. Parce que je veux que mes enfants vivent dans ce pays. Je veux que mes enfants aient la liberté de sortir et de faire ce que... Je ne veux pas qu'on juge mes enfants en fonction de la couleur de leur peau.
Roy enfant du Bénin debout,
Camarades africains, c'était un reportage exclusif proposé par Daphné Gastaldi et réalisé par Cécile Pompeani pour La Marche du Monde. Les photos sont à découvrir sur notre page Facebook et pour en savoir plus, vous pouvez lire les articles de Daphné sur RFI.fr. Je vous recommande également le livre Étudier à l'Est, dirigé par Monique de Saint-Martin, Grazia Scarfo-Gelab et Kamal Melak. C'est aux éditions Cartala et c'est la première fois que ce sujet méconnu est analysé par des historiens.
Livré au prix du sang des combats éclatants, accourez vous aussi.
N'oubliez pas de podcaster, de vous exprimer. Cette émission, c'est la vôtre.
Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche pour la prospérité, construisez sans relâche, enfant du Bénin.
Mais nous t'aiderons.